me force tous les matins à me maquiller, à m'habiller, à me coiffer quand j'y arrive.
On est plutôt les laissés pour compte.
Il m'a dit, mais moi j'ai pas signé pour être avec une femme malade.
Et le groupe d'amis devient de plus en plus petit, et puis après on vous appelle plus.
Je peux faire des choses, mais en même temps je suis entravée dans toutes ces choses.
Moi ce qui m'importait en fait, c'était de guérir.
Sur les réseaux sociaux, au travail, même entre amis, on se conforme à des attentes tacites. Comme toujours répondre « ça va », même quand ce n'est pas le cas. Tant qu'une personne a deux bras, deux jambes et un sourire aux lèvres, on ne se pose pas plus de questions. La fibromyalgie, le syndrome d'Ehlers dans l'os, la maladie de Ménière, des mots qu'on ne connaît pas forcément, mais qui font partie du quotidien de millions de personnes à travers le monde. Ces maladies sont invisibles, par définition. Invisibles parce qu'elles ne se voient pas au premier regard. Invisibles parce qu'on n'en parle pas ou qu'on préfère les ignorer. Mais derrière ce silence, il y a des vies et des souffrances qu'il est temps de comprendre. Invisible par définition. Épisode 1, la bataille pour mettre un nom sur sa souffrance.
Donc je m'appelle Mélodie, j'ai 36 ans, je suis maman de deux enfants. Et donc dans la vie, je suis chargée de clientèle en assurance.
Voilà. Mélodie, atteinte de fibromyalgie, a dû suivre un traitement lourd après un accident d'équitation et multiplier les rendez-vous thérapeutiques. Si son état mental s'améliore progressivement, son corps, lui, peine à suivre.
Un jour, je suis arrivée, je lui ai dit « je vais bien, mais il y a un truc qui va pas ». Donc du coup, on en a longuement discuté et j'étais rentrée dans une phase où en fait j'ai commencé à changer toute ma maison. Et a priori, d'après ce que j'ai compris, ça voulait dire que en gros, je reprenais ma vie en main. Mais je lui dis, il y a un truc qui va pas. J'ai mal. Je continue à avoir mal au dos. J'ai très mal à la tête. J'ai des picotements parce que il faut savoir que quand on fait des crises de panique attaque, on a beaucoup de picotements. Et je lui dis, je ne me sens plus en crise de panique attaque, mais pourtant j'ai toujours ces picotements, j'ai toujours ces douleurs, j'ai toujours ces migraines, et je ne l'explique pas. Et elle m'a dit, oui, effectivement, vous allez bien, on voit que vous avez repris le dessus, et il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'en ai commencé à en parler à mon médecin, qui me disait, oui, non, non, tout va bien, et on ne faisait pas d'examen. Donc moi, ça a commencé à me trotter, j'ai commencé à taper les symptômes sur Internet, et en fait, la fibromyalgie a commencé à ressortir. Et donc, oui, il y a eu une forme de soulagement, parce qu'en fait, on pose des mots sur quelque chose qui, à la base... n'existe pas pour les autres, en fait. Donc c'est assez... Il y a eu un relâchement qui s'est fait qui a été assez impressionnant, quoi. J'ai décidé de prendre les choses en main et en, je pense, 3 mois, c'était diagnostiqué. Donc oui, ça fait 1 an et demi que du coup, j'apprends à gérer tout ça. Parce que psychologiquement, si moi je baisse les bras, en fait, il n'y a plus rien qui va. Donc le mental, on essaye vraiment à ce que le mental prenne le dessus sur tout ça et on avance et on fait les choses, quoi.
Isabelle, quant à elle, est confrontée à la maladie de Ménière.
Alors, donc ça s'est passé le 24 juillet 2022, donc le jour de mes 49 ans. Alors quelques jours plus tôt, j'avais eu l'oreille gauche qui s'était complètement bouchée. Donc je pensais à une otite ou quelque chose comme ça. Et puis le jour de mon anniversaire, le soir, j'étais vraiment pas bien et je décide d'aller me coucher à 21h. Et là, quand je me suis levée, c'est le décor est parti, mais un truc de dingue en fait. Alors j'ai appelé le 15, donc on m'a emmenée à l'hôpital. J'ai tout de suite été diagnostiquée par le médecin qui m'a reçue. Et il a eu l'intelligence de me prescrire de la kiné vestibulaire. Entre-temps, j'ai vu un ORL qui m'a pris en urgence. Et là, quand je lui ai parlé de la kiné vestibulaire, il m'a fait... Voilà. Genre... Voilà. Il m'a dit, bon, il n'y a rien à faire, vous avez dû vivre un gros stress. Alors, je lui ai dit non. Mais par contre, effectivement, j'étais dans une période où il y a tout qui partait en cacahuète sur tous les domaines de ma vie. Et 3 semaines avant de déclencher le syndrome, j'avais dit à 2 amis... La soupape, elle va péter. Je ne sais pas comment, mais la soupape, elle va péter. J'ai rencontré une autre ORL entre-temps qui m'a dit « La kiné vestibulaire, ça ne sert à rien. Les médicaments, ça ne sert à rien. Au moins, vous n'avez pas un cancer. » Et c'est là que je me suis dit « C'est juste pas possible. Quelqu'un qui n'a aucune connaissance médicale, qui n'a pas d'amis médecins, qui n'est pas dans ce domaine-là, il sort, mais il se suicide. C'est pas possible. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre. » C'est justement pour dire, attention, il y a des solutions. Ne vous laissez pas détruire par des médecins incompétents, là, d'une part, mais la médecine n'a pas de solution à cette maladie. Donc, alors que des solutions, il y en existe. Pas pour guérir complètement, mais en tout cas pour reprendre une vie normale.
Alors, je m'appelle Monique Verniol, j'ai 64 ans, bientôt 65, et je suis atteinte d'une maladie rare, on appelle ça une maladie orpheline aussi, le syndrome d'Ehlers dans l'os. En fait, moi, j'ai eu plus de 20 ans d'errance après l'aggravation de la maladie. Mais vraiment, il y a eu une période très compliquée en 1986, début 87, donc j'avais à peine 27 ans. Et là, j'ai été hospitalisée, j'ai fait le tour des hôpitaux de Metz, en fait, sur Nancy également, voilà. Les médecins ont uniquement posé un diagnostic psychologique, en fait. Il fallait voir un psychiatre. Eux, ils n'avaient aucune maladie à étiqueter, rien du tout. C'était dans ma tête, il n'y avait rien aux examens, donc je pouvais travailler. J'ai rencontré le papa de ma fille lors d'un retour à l'emploi, d'un stage de retour à l'emploi. Et puis, ben voilà, on s'est installés très vite ensemble. Et puis, la décision a été prise de concrétiser par une grossesse. Alors, la grossesse s'est bien passée. Et puis, Alice a été malade très tôt, en fait. Des problèmes de santé que le médecin ne comprenait pas. Le médecin de famille ne savait pas identifier, il ne comprenait pas vraiment. On a vraiment tout essayé. Et là, c'est là qu'a commencé la rencontre. On tombe sur un tout jeune kiné qui sortait de l'école de Belgique. Puis au fil des séances, il pose des questions à Alice en lui disant « T'as d'autres problèmes de santé ?» Il me dit « C'est bizarre, votre fille, il y a autre chose que l'entorse. Je pense qu'il y a autre chose. Mais qu'est-ce qu'elle a ?» Je lui dis « Qu'est-ce qu'elle a ?» J'en sais rien. Je lui dis « Personne ne le sait. » « Ah bon ? Est-ce que vous pouvez me faire un historique ?» Je dis oui. Et puis il me dit, les examens que vous avez passés, qu'est-ce qu'on vous dit ? Je dis, on me dit chaque fois qu'il n'y a rien, que je peux rentrer chez moi avec ma fille. Et la séance d'après, il revient, écoutez, il me dit, j'ai regardé. Mais il me dit, ça me fait penser à quelque chose. Puis il me dit, je ne sais pas si je dois vous le dire, parce que c'est grave et ça ne se soigne pas. Il me dit, je pense que ça peut être un syndrome d'Ehlers dans l'os. Alors déjà, le nom, on a envie de reculer, parce que Ehlers dans l'os, maintenant, nous, on a l'habitude de le dire, mais on a encore des gens qui ont vraiment du mal à prononcer le nom. Et puis, il m'explique. Et puis, il me dit, il faut aller à Paris. À l'époque, il n'y avait absolument rien ici, dans l'Est. Je trouve le site du professeur Claude Amonet. Et puis, je regarde les symptômes de la maladie. Alors, je reconnais Alice, je me reconnais moi, et je reconnais ma mère. Donc, je contacte ce professeur par mail. Et puis, il me répond le lendemain matin. À 7h du matin, j'ai une réponse. Il me dit, madame, tout ce que vous m'expliquez semble fort probable. Il faut qu'on se rencontre. Et là, naturellement, il a confirmé tout de suite le diagnostic pour Alice, en me disant que moi, naturellement, c'était ça, mais qu'il me verrait plus tard. Mais on s'est toujours dit qu'on était diagnostiqués toutes les deux le 31 octobre, parce que ça a été vraiment un soulagement.
Mais qu'est-ce que le syndrome d'Ehlers dans l'os, plus communément appelé SED ? Roméo Diana est docteur en biologie, et il a justement consacré sa thèse à cette maladie.
Le syndrome d'Ehlers dans l'os, c'est une maladie qu'on dit génétique et rare, puisqu'elle se transmet via des gènes défectueux mutés que les parents peuvent transmettre aux enfants, est rare puisqu'elle touche globalement, c'est une prévalence, une personne sur 2000 dans le monde. Il y a toute une multitude de symptômes et ça fait partie des grandes problématiques autour de la recherche sur le syndrome d'Ehlers dans l'os. Mais on a réussi à en déterminer quelques-unes, par exemple l'hyperélasticité de la peau, donc des gens qui peuvent tirer leur peau très très loin par rapport à leur peau, leur état de base. L'hypermobilité des articulations, donc des gens qui peuvent aller très très loin dans leurs articulations, par exemple si on pousse les doigts vers l'arrière, contre le bras, on peut aller jusqu'à toucher le bras. Et globalement, des cicatrices, des plaies qui ne cicatrisent pas, qui cicatrisent très mal et qui apportent tout leur lot de problématiques par la suite. Ça, c'est les trois grands symptômes. Par la suite, après, il y a beaucoup, beaucoup d'autres symptômes qui sont spécifiques à certains sous-types d'Ehlers dans l'os. Parmi toutes les problématiques qu'il y a, il y a le diagnostic, le pronostic et donc après, la détresse des patients. Donc la détresse des patients, elle peut s'accompagner de douleurs chroniques qui ne sont pas soignées ou peu soignées, qui sont largement ignorées par rapport aux symptômes que l'on voit et pas que le patient ressent. Mais il y a aussi la détresse diagnostique. Le désert diagnostique qui fait qu'on peut poser un mauvais diagnostic à quelqu'un et donc lui fournir, dans un certain sens, les mauvais soins, puisque certains aspects de ses symptômes seront largement ignorés et donc il y a une douleur, une détresse, un sentiment d'abandon de la part de la société, du corps médical et une mésentente entre toutes les parties.
Dans les rares témoignages que j'ai pu lire sur les personnes qui sont atteintes du SED, beaucoup sont passés par la case du « en fait, on a pensé que j'étais fibromyalgique ». Est-ce que, d'un point de vue biologique, il y a une ressemblance dans ces deux maladies ?
Oui, il y a des ressemblances sur certains symptômes, effectivement. Fibromyalgie, donc on parle de fibres, et les collagènes, ça semble en fibres, par exemple. Donc là, on est sur quelque chose qui est extrêmement similaire. Si jamais des fibres ont des problèmes sur ce que ça peut apporter visuellement quand on regarde un patient. Et dans myalgie aussi, il y a mya ou myo. Donc là, on parle plutôt de l'aspect musculaire de la chose. Et les muscles font partie de ces tissus conjonctifs qui sont touchés. Donc effectivement, ça peut faire partie des maladies avec lesquelles on confond le syndrome d'Ehlers dans l'os. C'est important également de rappeler que l'erreur diagnostique n'est pas systématique. Vraiment. C'est la grosse problématique du syndrome d'Ehlers dans l'os, c'est la grosse problématique des maladies invisibles. L'erreur diagnostique et donc l'erreur pronostique et tout ce qui l'en suit, mais l'erreur n'est pas systématique. Et ça, c'est parce qu'on comprend de mieux en mieux la maladie. Et on peut potentiellement arriver à un point où on se trompe de moins en moins jusqu'à un monde où potentiellement on ne se trompe plus.
Alors, je m'appelle Anne, j'ai 35 ans et je suis atteinte de fibromyalgie. Moi, j'ai commencé à avoir des symptômes, j'étais très jeune, j'avais 19 ans. Et après, ça a été un long parcours d'errance jusqu'à à peu près mes 30 ans où là, j'ai un médecin qui a parlé de fibromyalgie, qui était un radiologue, que je ne connaissais pas du tout le terme. Et en finalité, je me suis retrouvée un jour avec une spécialiste de la douleur. C'est mon médecin traitant de l'époque qui m'a envoyée, qui m'a fait un test et là, qui effectivement m'a dit « c'est sûr, vous êtes atteinte de fibromyalgie ». Donc ça s'est un peu passé comme ça, mais ça a été très très long puisque ça a été quasiment 12 ans d'errance médicale avant où je suis passée par beaucoup de choses. Et quand enfin on a posé le diagnostic, je me suis dit... En fait, j'ai eu un temps où je me suis dit « j'arrive pas vraiment à y croire », mais en même temps je coche toutes les cases. Et en même temps un soulagement de me dire « bon, ok, c'est pas dans ma tête surtout ». Donc ça a été vraiment cette dualité avant d'accepter vraiment le diagnostic.
Donc, Elisabeth Michalam, 58 ans, et ma maladie, c'est les vertiges et la maladie de Ménière. Ça fait au moins bien 20 ans. Mais ça fait un an où je galère avec cette maladie, en fait. Alors, ben, disons que j'ai eu un gros vertige. Alors, je me rappelle bien, c'était pour Noël, parce que le sapin, il a fait le tour de la salle à manger toute la nuit, en fait. Et là, du coup, je me suis demandé ce qui m'arrivait. Donc, je suis allée chez le médecin, parce que bon, bah, la crise a duré quelques heures, voire... Enfin, en général, c'est entre 6 et 8 heures, hein, quand c'est la grosse crise. Et du coup, je suis allée voir un ORL, et c'est l'ORL qui m'a diagnostiqué Ménière en me faisant passer des tests. Donc, les tests consistent à me mettre dans le noir, à me mettre de l'air dans les oreilles, un peu d'eau aussi dans les oreilles, un coup chaud, un coup froid, pour voir comment ça réagit. Et en fonction de la réaction, c'est soit Ménière, soit les cristaux. J'ai dû donc faire une rupture conventionnelle parce que je ne pouvais plus travailler où j'étais actuellement. Et du coup, bah là, je suis en recherche de trouver un emploi qui pourrait s'adapter à mes oreilles, en fait.
Pour mieux comprendre la maladie de Ménière, Bernard Montinet, ancien chirurgien ORL, nous donne une définition.
Cette maladie, elle est essentiellement diagnostiquée en tant que syndrome, c'est-à-dire que c'est l'alliance de trois symptômes, des crises vertigineuses, d'apparition plus ou moins brutale, qui dure un certain temps, quelques minutes à de nombreuses minutes, parfois plus longtemps encore, ça peut être quelques heures, et parfois une journée entière, accompagnée d'un bourdonnement, d'un acouphène dans l'oreille, pas dans les deux habituellement, et d'une impression d'oreille bouchée en même temps, de surdité. Surdité très très désagréable. Donc c'est la maladie de Ménière, c'est ça, ces trois symptômes-là, mais répétés. Pour que ce soit répété, au moins quelques fois, pour dire c'est probablement une maladie de Ménière. Classiquement, on dit que les femmes sont plus touchées que les hommes, Et classiquement, on dit que c'est un âge moyen, c'est-à-dire que c'est à partir de la trentaine, comme ça. Chez les personnes très âgées, bon, moi, j'en ai jamais vu, mais c'est pas classique du tout. Et chez l'enfant, semble-t-il que ça peut exister, certainement de façon très rare, mais on a des publications qui disent qu'il y a des enfants qui sont touchés. En plus, le début, il n'y a rien qui prévient que la maladie, que la crise va arriver. Alors, que la maladie existe, donc on ne sait pas, hein, donc ça peut arriver à n'importe, enfin, a priori à n'importe qui, mais qui est prédisposé, bien sûr, mais on ne sait pas les prédispositions. Donc ça va venir pour des raisons qu'on ne sait pas trop. Et à ce moment-là, la prise en charge du patient consiste à l'interroger suffisamment longtemps et de façon répétitive pour essayer de trouver des éléments qu'on pourrait éventuellement corriger. A priori, il n'y a pas quelque chose de très typique qui va la déclencher.
Alors, je m'appelle Ludivine, j'ai 50 ans et donc je suis atteinte de fibromyalgie depuis maintenant à peu près 15 ans. Ça me met en rage en fait. Ça me met en rage parce que je peux faire des choses, mais en même temps, je suis entravée dans toutes ces choses. C'est-à-dire que là, je vous parle et je suis en feu. Pour moi, c'est comme ça que je le vis. Je suis perpétuellement en feu dans mes mains, dans mes bras, dans mes pieds, dans mes jambes. C'est du feu en permanence. Là, par exemple, vous voyez... Même pour mes vêtements, je choisis avec attention aujourd'hui parce que je ne peux pas avoir un vêtement qui me sert en fait. Parce que même là, avec un vêtement un peu lâche, j'ai l'impression que je suis l'incroyable Hulk, vous voyez ? Que mes bras, mes mains sont gonflés et que je vais, voilà, j'ai ma peau qui va se déchirer, qui va déchirer les vêtements. On pourrait croire que je suis un peu folle, mais c'est comme ça que moi je ressens les choses. Il y a des jours où je ne peux pas lever mes bras pour enfiler un pull, pour me laver les cheveux. C'est beaucoup de moments de solitude aussi. Vous attrapez la queue d'une casserole et vous la lâchez parce que vous ne la sentez plus. C'est pas pouvoir se baisser, s'agenouiller parce que vous êtes bloqué. C'est comme si en permanence, chaque jour je me levais, mais que la veille j'avais repris le sport. J'avais fait du crossfit pour la première fois, où j'avais fait un Ironman. Et puis le lendemain matin, voilà. Tous les jours, c'est comme ça, comme si j'avais été essorée sur 1400 tours. Vous dormez pas, vous dormez très mal, vous n'avez aucun sommeil récupérateur. Même si vous voulez vous assoupir dans la journée, vous n'y arrivez pas. Parce que, alors, on me demande souvent, mais pourquoi tu dors pas ? Je dis, je pense que dans la journée, je suis obligée de faire l'effort, de faire le minimum, en fait, de me lever, de faire des gestes du quotidien, de m'occuper de mes enfants, enfin, voilà, de faire de vivre, quoi. Mais la nuit, en fait, quand vous relâchez, je pense que en fait, c'est là où, au final, tout vous revient en pleine face parce que vous êtes tellement contenu la journée que moi, c'est comme ça que j'interprète.
Monique, Mélodie, Anne et Ludivine, ou Elisabeth et Isabelle, ont traversé un parcours du combattant pour obtenir un diagnostic. Face à des symptômes complexes et mal connus, beaucoup subissent des diagnostics erronés, un manque de reconnaissance et des réponses insatisfaisantes du corps médical. Pourtant, mettre enfin un nom sur la maladie est un soulagement, même si cela ne signifie pas toujours un traitement efficace. Dans le prochain épisode, nos intervenantes et leurs proches partageront les répercussions sociales de l'invisibilité de leur maladie. Entre incompréhension, isolement et remise en question, elles racontent comment la méconnaissance des autres à leur égard a pu impacter leur quotidien. Thank you.